Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Le 9 novembre 1989 tombait donc le mur de Berlin, un événement qui m'a d'autant plus marqué que j'habitais à ce moment-là à Prinzenallee, dans la partie est de la ville, dans un immeuble alternatif prenant l'autogestion, la vie communautaire et la culture anti-bourgeoise. Alors côté musique, nous avons bien sûr tous bien en tête Rostropovitch jouant la troisième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach sous les incroyables graffitis du mur, ou encore Leonard Bernstein dirigeant la 9e symphonie de Beethoven au Concerthaus en remplaçant le mot Freude par le mot Freiheit, faisant ainsi de l'ode à la joie l'ode à la liberté, un enregistrement aussitôt commercialisé par Deutsche Grammophon qui insère en prime dans le coffret un véritable petit morceau de mur. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous intéresser à l'incroyable variété des musiques composées et entendues en cette année 1989. En Allemagne, bien sûr, mais aussi en France, en Italie, au Japon et aux États-Unis. Et voici pour commencer l'une des œuvres pour moi les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle avec Different Trains du compositeur américain Steve Reich. Une pièce particulièrement originale puisqu'elle associe trois quatuors à cordes à des bribes de voix parlées provenant d'entretiens avec des personnes ayant connu la Seconde Guerre mondiale. Ces courtes formules parlées sont samplées, superposées et imitées par les cordes qui en font à chaque fois la source de leur polyphonie. Are you sure? Are you sure? The war is over. Over.
Over. To Los Angeles. To Los Angeles. To New York. To New York. To New York.
From New York to Los Angeles. New York to Los Angeles.
Le London Steve Reich Ensemble interprété After the War, troisième et dernier mouvement de l'emblématique Different Trains du compositeur américain Steve Reich, une œuvre qui remporte le Grammy Award de 1989 de la composition de musique classique contemporaine. Toujours aux États-Unis, l'immense Leonard Bernstein signe cette année-là sa dernière œuvre, une suite de danse pour quintette de cuivre et batterie, dont le dernier mouvement est dédié à son ami Jerome Robbins, l'inoubliable chorégraphe de West Side Story. Entre le swing de la trompette et les glissades du trombone, l'atmosphère musicale est d'ailleurs très proche de la mythique comédie musicale, comme vous allez tout de suite l'entendre. Un trombone, un tuba, un corps, deux trompettes et une discrète batterie faisaient swinguer cette ultime danse composée par Leonard Bernstein quelques mois avant sa mort. Traversons maintenant l'Atlantique pour retrouver en France Olivier Messiaen, qui vient tout juste de terminer l'une de ses dernières compositions pour orchestre, la plus brève à peine 10 minutes, qu'il intitule tout simplement « Un sourire ». C'est que Messiaen répond avec un peu d'avance à la demande de Radio France et du chef d'orchestre Marek Janowski qui lui avait demandé d'honorer le tout prochain bicentenaire de la mort de Mozart. La douceur extatique des cordes en sourdine alterne avec une volée d'oiseaux piailleurs confiés au vent et aux percussions. C'est un peu comme si l'âme de Mozart rencontrait les oiseaux du paradis. Serions-nous déjà au paradis ? C'en était en tout cas sûrement l'avant-goût, grâce au temps suspendu d'Olivier Messiaen, un extrait d'Un sourire, une brève page pour orchestre écrite par le grand compositeur français en 1989, et nous écoutions l'orchestre de l'Opéra de Paris, placé sous la direction du chef coréen Myung Woon Chung. Autre géant de la musique française, le compositeur Henri Dutilleux achève cette même année son Mystère de l'instant pour 24 cordes, percussions et cymbalum. Vous savez, cet instrument à cordes frappées caractéristique des musiques tziganes. Cette œuvre fascinante se divise en 10 instantanées portant des titres évocateurs et poétiques. Appel, écho, rumeur, soliloque, espace lointain, métamorphose, embrasement. Alors voici le troisième de ces instantanées, intitulé « Prisme », dont j'aime particulièrement la texture souple et changeante, mêlant tenue légère, trémolo fugace, pizzicato dansant et quelques gouttes de cymbalum comme le fugitif éclat d'une crête de vague argentée. C'était Prisme, un extrait du Mystère de l'instant du compositeur français Henri Dutilleux, et l'orchestre de chambre de Lausanne était placé sous la direction de Heinz Holliger. Mais si 1989 est l'année de la chute du mur de Berlin, c'est aussi celle du bicentenaire de la Révolution française, à l'occasion duquel le Festival d'automne à Paris commande au truculent compositeur argentin Maurizio Kagel une grande pièce pour orchestre. Le compositeur l'intitule « Les idées fixes », ce qui est somme toute assez logique puisqu'il s'agit d'un rondo, cette forme instrumentale à refrain qu'affectionnaient particulièrement les classiques du XVIIIe siècle. Un pastiche grinçant et sarcastique, bien à l'image de cet art de la déconstruction qui aura tant marqué les années 70 et 80. Une musique étonnante, pratiquant largement le second degré, la citation voire la caricature, le détournement et le retournement, et cet humour singulier qui faisait dire au journaliste Maurice Fleuret l'art de Kegel a les vertus toniques d'une cure de santé. Un extrait du rondeau pour orchestre Les idées fixes de Maurizio Kegel, qui dirigeait lui-même l'orchestre de la radio de Sarrebruck. Alors loin de l'ironie mordante du maître argentin du théâtre musical, l'Estonien Arvo Pärt compose quant à lui, toujours en cette même année 1989 qui fait l'objet de notre preuve par Z de la semaine, un sublime magnificat pour chœur a cappella, qui deviendra rapidement l'une de ses œuvres les plus jouées et les plus enregistrées. Je pourrais comparer ma musique à une lumière blanche contenant toutes les couleurs. Seul un prisme peut révéler ce spectre lumineux, et ce prisme, c'est l'auditeur. Léo Varinsky dirigeait son chœur des métaboles pour ce magnificat serein et apaisant, écrit en 1989 par le compositeur estonien Arvo Pärt. Et nous voici maintenant au Japon, pour découvrir l'univers rare, poétique, évanescent du compositeur Toru Takemitsu, né en 1930, aujourd'hui encore le nom le plus connu de la musique classique japonaise. Nourri des musiques traditionnelles de son pays, amoureux de compositeurs français comme Debussy, Satie ou Messiaen, Takemitsu affectionne particulièrement le souffle des flûtes et les résonances des instruments à cordes pincées. C'est ainsi qu'il met au point en 1989 une très belle version pour flûte alto et harpe de son célèbre triptyque Toward the Sea, dont je vous propose d'écouter maintenant le troisième mouvement en forme de promenade maritime au Cap Cod, cette vaste péninsule située entre Boston et New York, réputée pour ses merveilleux couchers de soleil et ses plages immaculées sculptées par le vent. Toute la poésie, toute la finesse de la musique du compositeur japonais Toru Takemitsu, ici interprétée par le flûtiste Robert Aitken et la harpiste Erika Goodman. Alors on se demande souvent si le jazz est une musique savante. Eh bien les recherches sonores de certains compositeurs de la fin du XXe siècle, comme Takemitsu, me semblent trouver un écho inattendu dans certaines plages du mythique album Aura de Miles Davis, paru bien évidemment en 1989, et récompensé cette même année par 2 Grammy Awards, meilleur solo et meilleure performance instrumentale. Alors, le jazz est-il une musique à part, différente du classique, ou bien une branche de celle-ci ? Réponse avec White, une étrange et captivante composition co-signée par Miles Davis et par le trompettiste et compositeur danois Palle Mikkelborg, au croisement du jazz, du classique et de l'électronique.
Thank you.
Les volutes psychédéliques du White de Miles Davis et la sonorité inimitable de sa trompette à la fois feutrée et incisive, c'était un extrait de l'album Aura, paru en 1989 et dont chaque plage porte le titre d'une couleur. Cette même année paraît le légendaire album Anniversary du saxophoniste Stan Getz, enregistré au Café Montmartre de Copenhague, en compagnie de Kenny Barron au piano, de Rufus Reed à la basse et de Victor Lewis à la batterie. Mais comme tous les grands improvisateurs, Stan Getz est encore meilleur devant un public que dans un studio d'enregistrement. Le résultat est fascinant. Ainsi que l'écrit l'historien du jazz Alain Tersinet, quelques notes suffisent et la magie opère. Reconnaissable entre tous, le phrasé et la sonorité de Stan Getz ouvrent les portes d'un univers de beauté duquel, enchanté au sens premier du terme, l'auditeur ne peut ni ne veut s'échapper.
Thank you.
Et c'est avec Keith Jarrett et son album Tribute, enregistré à Cologne en une seule soirée, et bien sûr en 1989, que je vous propose de terminer notre preuve par Z, qui commémorait cette semaine la chute du mur de Berlin. Et puisque nous avons parlé tout à l'heure des liens unissant classique et jazz, voici une composition que n'aurait sûrement pas renié le compositeur norvégien Edvard Grieg. Je pense à certaines de ses mélodies norvégiennes pour piano. Thank you. le phrasé magique de Keith Jarrett et toute la poésie d'une émotion sans artifice dans cette ballade des jeunes hommes tristes avec laquelle s'achève notre rétrospective musicale de l'année 1989, jazz et classique mêlés, notre manière à nous de faire tomber les murs. De Berlin, bien sûr. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau, chef opérateur du son Paul Percheron. Remerciements et salutations amicales à François Lacharme. À la semaine prochaine.